Les terrasses du ciel. Les grands classiques de la poésie chinoise avec les éditions Mundaren. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Terrasse du Ciel. Je vous propose tout au long de cet été de découvrir les merveilles de la poésie chinoise classique grâce au livre publié par les éditions Mundaren. Aujourd'hui, lecture de Po Kuyi, l'ermite du mont parfumé, un homme sans affaires. Po Kuyi, qui prendra plus tard pour nom de lettré Lotien, celui qui jouit du ciel, est né le 20e jour du premier mois de l'année 772 à Tsingcheng dans le Honan, d'une famille de mandarins. Peu de temps après sa naissance, sa famille s'installe à Xinyang, au bord du fleuve Jaune. C'est là qu'il passe ses 10 premières années. Enfant prodige, à 5 ans, il commence à écrire des poèmes et à 9 ans, il maîtrise parfaitement la cadence et le rythme de l'écriture poétique. En 783, son père est nommé préfet de Suzhou dans le Changtung. Kuyi ne le suit pas. On l'envoie chez un de ses oncles à Xiakui, berceau de la famille Po, un village au bord de la Wei, à l'est de Chang'an, la capitale impériale. À cette époque, la vie politique est très agitée. Les intrigues des eunuques, tout puissants à la cour, les rébellions des généraux, les mutineries et les invasions barbares aux frontières affaiblissent l'empire. Fuyant les troubles qui secouent la région de Chang'an, Po Kuyi, alors âgé de 14 ans, quitte Xiakui et se réfugie au pays de Wu, au sud du long fleuve, chez des parents éloignés. Il séjourne là 8 années durant. Il essaie en vain de fréquenter le cercle littéraire du poète Wei Yingwu, alors gouverneur de Suzhou. En 793, à 21 ans, il retourne auprès de sa famille à Fuli dans le Changtung. Bientôt, il part accompagner son père qui vient d'être nommé à Xiangyang au bord du fleuve Han. Un an plus tard, son père meurt. Comme il ne dispose pas de l'argent nécessaire pour rapatrier la dépouille, il est contraint de faire enterrer son père à Xiangyang. Puis il retourne à Fuli auprès de sa mère et de ses 2 frères, Yuan et Tsingqian. La famille est alors privée de ressources et très appauvrie. Elle part s'installer à Luoyang, la 2e capitale, celle de l'Est. De là, Po Kuyi retourne au pays de Wu, à Zhuangzhou, chez des parents, pour préparer le concours de la province. À l'automne 799, il est sélectionné pour se présenter au concours impérial à Chang'an. Po Kuyi arrive à Chang'an au début de l'année 800, âgé de 28 ans, et s'installe provisoirement au monastère taoïste Huayang. Il rencontre Yuan Shen, alors âgé de 23 ans, auquel une intense amitié va le lier. En 801, ils sont tous les deux reçus au concours impérial. En 804, ils sont nommés collateurs de la bibliothèque impériale. Pokuyi loue un pavillon dans l'allée Changlo, l'allée de la joie éternelle. Mais en 806, Pokuyi et Yuan Shen démissionnent de leur poste de collateur et vont à nouveau s'installer au monastère taoïste Huayang pour préparer le concours spécial du palais. Et ils sont tous deux reçus à ce concours. À l'automne 806, Pokuyi est nommé assistant du magistrat du district de Chuqi à 150 li à l'ouest de Chang'an. À Chuqi, Pokuyi se rend compte de la misère des paysans chargés de taxes et victimes de l'injustice administrative. Un an plus tard, il est rappelé à Chang'an et nommé à l'académie Hanlin, la forêt de pinceaux, où il est chargé de rédiger des documents officiels au nom de l'empereur. Quelques mois après, Pokuyi est nommé censeur à la cour. À Chang'an, il demeure alors dans une petite maison appelée le studio sous les pins. Le rôle de censeur de Pokuyi est de critiquer en toute liberté et impartialité la politique gouvernementale. Sur sa suggestion, l'empereur interdit l'envoi de cadeaux au trône et réduit le nombre de chevaux du haras impérial. Dans ses mémorandums et dans ses poèmes, il s'élève contre les injustices subies par le peuple et dénonce la mainmise des eunuques sur le gouvernement, comme dans ce poème intitulé « Le vieux charbonnier ». Le vieux charbonnier coupe du bois et charbonne dans la montagne du sud. Son visage, couvert de poussière et de cendres, est de la couleur de la suie. Les deux tempes grisonnantes, les 10 doigts noirs, avec l'argent du charbon qu'il vend, qu'achète-t-il ? Des vêtements pour le corps, de la nourriture pour la bouche, une veste aussi mince sur le dos. Il a l'air misérable. Il redoute que le charbon soit bon marché. Il souhaite qu'il fasse froid durant la nuit. Dans la ville, un pied de neige est tombé. À l'aube, il y conduit son chariot de charbon, brisant la glace dans les ornières. Le buffle est épuisé, lui est affamé. Le soleil est déjà haut. Au seuil de la porte sud de la ville, dans la boue, il se repose. Deux cavaliers fringants arrivent. Qui sont-ils ? Un eunuque en veste jaune avec un garde en veste blanche. Il tient dans la main un papier officiel. Sa bouche hurle l'ordre impérial. Huant le buffle, le tirant vers le nord, il détourne le chariot. Un chariot de charbon pèse plus de 1000 livres. Lorsqu'un messager officiel est envoyé pour réquisition, il n'y a rien à faire. Une demi-mesure de gaz rouge et 10 pieds de soie, attachée à la tête du buffle en échange du charbon. On voit que Pokuyi avait une véritable fibre sociale. C'est à cette époque qu'il se marie avec une demoiselle Yang qui bientôt donne naissance à une petite fille, Clochette en or. Pendant quelques jours, il retrouve son ami Yuan Shen de passage à Chang'an avant de se rendre à Qiangling sur le long fleuve où il vient d'être nommé. Ses poèmes valent déjà à Pokuyi une grande notoriété. Il fréquente les lettrés en renom et les hauts dignitaires. En été 810, son mandat de censeur arrivant à son terme, il est nommé intendant des finances de Chang'an. Son salaire est doublé. Au printemps 811, en admirant des fleurs, sa mère tombe dans le puits de leur nouvelle maison de l'allée Zhuangping et meurt. Le deuil, c'est la coutume, oblige Pokuyi à se retirer des affaires officielles durant 3 années. Il retourne à Tiakwei, le village de la famille Po, au bord de la Wei, à l'est de Chang Han. À Siakwei, privé de son salaire, Pokuyi ne s'en sort que grâce à l'aide de Yuanshen qui partage avec lui ses émoluments. Ce séjour n'est pas très heureux. Pokuyi souffre de troubles de la vue et surtout, sa fillette, Clochette en or, meurt à l'âge de 3 ans. 3 années plus tard, de retour à Chang'an, Pokuyi composera le poème suivant. Me souvenant de ma fille Clochette en or. Malade, affaiblie, un corps de 40 ans. Mignonne et candide, une fillette de 3 ans. Tu n'étais pas un mâle, mais c'est, dit-on, mieux que rien. Pour réconforter mon sentiment, de temps en temps une caresse. Un jour tu nous as quittés, ton âme et ton ombre. Nul endroit où les retrouver. Je me souviens à l'époque de ta mort précoce, tu babillais, tu commençais à apprendre à parler. Je compris alors que l'amour d'os et de chair finalement est cause de soucis et de tristesse. Je pensais au moment d'avant ton existence, pour essayer de me raisonner et de chasser ma peine. Après de longs jours, je commençais à oublier. 3 fois le froid et le chaud ont alterné. Aujourd'hui, à nouveau, j'ai le cœur brisé. Je viens de croiser ton ancienne nourrice. C'est donc au cours de l'hiver 814 que Pokuyi retourne à Chang'an reprendre ses fonctions. Il s'installe dans la maison d'une famille Wang dans l'allée Kaoko. Il est nommé secrétaire assistant du prince héritier, un petit poste assorti d'un petit salaire. Sa seule obligation est d'assister à l'aube à l'audience impériale. C'est à cette époque que Pokuyi s'intéresse vivement à l'expérience du bouddhisme Chan, zen en japonais. Le mot Chan est la transcription chinoise du sanskrit dhyana, contemplation, et le bouddhisme Chan résulte de la subtile infusion du bouddhisme indien dans la pensée taoïste chinoise de Lao Tzu, l'auteur du fameux Tao Te King, le classique du Tao et de ses vertus, mais aussi de Chuang Tzu, auteur du livre éponyme, dont le premier chapitre est intitulé « Libre et à l'aise ». Le mot Tao signifie le cours naturel des choses et par extension appliqué à l'homme, l'accord au cours naturel des choses. Pokuyi se tourne vers l'enseignement de l'école Chan du Sud, fondée par Wineng, le 6e patriarche. L'école Chan du Sud, aussi appelée école de l'éveil immédiat, de l'illumination silencieuse, insiste sur l'expérience même de l'éveil à notre nature profonde et originelle, foncièrement libre. Quand on s'aperçoit que, fondamentalement, il n'y a rien, comme disait le maître Feng Kan, un contemporain de Pokuyi, il n'y a plus alors qu'à lâcher philosophiquement prise et à s'accorder au cours des choses. Pokuyi bénéficie alors de l'enseignement du maître Huai Quan, disciple du maître Matsu. Dans un poème daté de 814, à propos de la voie bouddhiste, Pokuyi écrit « Cela fait 6 ou 7 années que je pratique la seule et unique voie. 2000, 10 000 liens j'ai été délivré. Seul le feu de l'amour, du désir, souvent encore me torture. Ce n'est pas que le remède ne soit pas efficace, mais quand on est criblé de maux, il est difficile de guérir de tous. Nous allons interrompre pour aujourd'hui le récit de la vie du poète chinois Po Kuyi et entrer de plein pied dans sa poésie. Je vais vous lire quelques poèmes pour terminer l'émission et puis évidemment on reprendra le cours du récit de sa vie qui ne manque pas de péripéties, comme vous pourrez le constater la prochaine fois, donc la semaine prochaine. Voici quelques poèmes de Po Kuyi. Le premier s'intitule « À ma guise ». Pendant 10 années en voyage, souvent j'étais tourmenté par la faim et le froid. Pendant 3 années censeur à la cour, souvent j'avais honte d'occuper ce poste sans remplir une vraie fonction. Il y avait du vin, mais pas de temps libre pour le boire. Il y avait les montagnes, mais je ne pouvais m'y promener. Ce n'est pas que je n'avais pas d'aspiration, mais lié par ma fonction, je n'étais pas libre. Aujourd'hui, je vis retiré sur la Wei, dérivant comme une barque sans amarre, le cœur en dehors des affaires du monde. Sans affaires et sans soucis, tous les jours un repas de légumes, toute l'année un vêtement de bure. Encore plus paresseux quand le froid arrive, je ne peigne mes cheveux qu'une fois tous les 3 ou 4 jours. Le matin, je ne me lève que lorsque j'ai assez dormi. Le soir, je bois. Une fois ivre, je vais me coucher. Le cœur ne demande qu'à être à l'aise. En dehors d'être à l'aise, que rechercher de plus? Pluie nocturne. Un grillon précoce stridule, puis s'arrête. La lampe vacillante s'éteint, puis se rallume. À travers la fenêtre, la nuit, je devine la pluie. Le bananier est le premier à en répandre le bruit. Pluie fine, marchant la nuit. Danse, danse, les nuages d'automne s'amoncellent. Peu à peu naît la fraîcheur nocturne. Je sens seulement que mon vêtement est mouillé, aucune goutte, aucun bruit non plus. Fin d'automne, séjour oisif. L'endroit est à l'écart, le portail en retrait. Rares sont les visiteurs à raccompagner. Une veste sur le dos, assis oisivement, je cultive un sentiment tranquille. La cour en automne, n'ayant pas encore été balayée, tenant ma canne en glycine, oisivement je marche sur les feuilles jaunes des polonias. Le village dans la nuit. Dans les herbes desséchées profuses, les insectes stridulent. Au sud du village, au nord du village, plus un seul passant. Seul je sors devant le portail et contemple la campagne. Dans le clair de lune, le sarrasin en fleurs comme de la neige. Alors que je suis malade, un ami me rend visite. Alité depuis longtemps, je ne compte plus les jours. À la fenêtre au sud, les crépuscules se succèdent. Sous l'auvent en chaume, mélancolique, matin et soir, j'entends les oiseaux du froid. Au pied du lit, m'appuyant à ma canne, je me lève et vais marcher dans la cour. À l'improviste arrive un vieil ami. Je l'accueille chaleureusement. On déplace ma chaise pliante pour profiter du soleil couchant. Enveloppé dans une fourrure, je m'appuie au pilier du devant. Bavarder ensemble cordialement est mieux que de prendre des médicaments. Peu à peu, je retrouve mon entrain. Réjoui par la venue de Cheng Xiong. Le chant des loriots touche à sa fin. Les prunes vertes sont déjà à moitié formées. Assis, je chéris la splendeur du printemps qui se termine. Je me lève et vais marcher dans le jardin à l'est. J'ai emporté du vin, mais suis trop indolent pour boire seul. Soudain, j'entends qu'on frappe au portail. Qu'un homme quelconque arrive, j'en serais déjà ravi. En plus, il s'agit de Cheng Xiong. Détendu, toute la journée nous conversons. Riche en souvenirs, l'amitié de tant d'années. Ne sous-estimons pas notre coupe de vin. Elle fait parler toute notre vie. Au relais du Pont Bleu, lisant le poème de Yuan Chen. Au Pont Bleu, le jour de ton retour, tombait la neige printanière. Sur la crête de Chin, au moment de mon départ, souffle le vent d'automne. Chaque fois que j'arriverai à un relais, je serai le premier à descendre de cheval, longeant les murs, tournant autour des piliers. Je chercherai ton poème. Amarrage nocturne dans une crique. Dans l'obscurité, je monte sur la berge du fleuve et reste là debout. Du vent sur l'eau, du givre dans l'air, la nuit, le froid est vif. Je me retourne et regarde dans la crique profonde, à l'endroit où est amarrée la jonque, au milieu des roseaux en fleurs, la tache de lumière de la lampe. Seul, contemplant la pluie diluvienne sur le fleuve et le lac en cru, inscrit au kiosque du Nord. Depuis que je suis l'hôte de Tsunyang, je me suis résigné à la pluie incessante. Le temps est couvert, sombre, les beaux jours rares. Désœuvré et las, je dors beaucoup. Le lac est vaste, il rejoint le ciel. Les nuages sont bas, ils se mélangent à l'eau. Au pied de la haie, les bateliers conversent. Au bout de l'allée, les pêcheurs chantent. L'île est dans le brouillard, un air jaune descend. une voile dans le vent est assaillie par les vagues blanches. Devant le portail, le chemin pour les carrosses et les chevaux, en une nuit, s'est transformé en fleuve. Souffrant de la chaleur, composé dans la salle de méditation du maître de la quiétude éternelle. Pour fuir la chaleur, les gens courent en tous sens. Seul le maître Chan ne quitte pas la salle de méditation. La chaleur n'y pénétrerait-elle pas? Quand le cœur demeure calme, le corps reste toujours frais. Passant la nuit au temple Tung Lin. Devant la fenêtre, je lis un sutra. La flamme de la lampe est courte. Dans le poil du moine, un feu à l'allure vive. Soirée maussade sur le mont Loup, je passe la nuit au Tung Lin sous une tempête de neige. Nuit de neige. D'abord, je m'étonne. La couverture et l'oreiller sont glaciales. Puis je m'aperçois que la fenêtre est lumineuse. Dans la nuit profonde, la neige doit être abondante. De temps à autre, le bruit d'un bambou qui casse. Voilà. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour continuer d'évoquer la vie et l'œuvre de Pokuyi, l'ermite du Mont Parfumé. C'était La Terrasse du Ciel. Restez à notre écoute. Les émissions de Radio Grand Ciel se poursuivent. À très bientôt.